Un grand bonjour à vous tous, amis fidèles de cette émission La vie en abondance, le programme qui veut faire connaître l'amour et la puissance de Jésus de Nazareth. Notre désir, c'est que vous aussi, vous puissiez découvrir cette vie abondante en Jésus-Christ, à l'instar d'un mendiant aveugle du nom de Bartimée, dont nous allons lire l'histoire telle que l'évangéliste Marc l'a relatée. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?»« Rabbouni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. L'un des cantiques anglophones les mieux connus s'appelle « Amazing Grace », qui signifie littéralement « grâce étonnante » ou « grâce surprenante ». Sa mélodie est connue et chantée dans le monde entier. Quant aux paroles, elles ont été écrites par John Newton, un ancien marchand d'esclaves, un homme méchant qui avait mené une existence dissolue. Mais un jour, la grâce et l'amour de Dieu l'ont atteint. Et l'ancien marchand d'esclaves a été complètement transformé. Le premier couplet de ce magnifique chant dit « Grâce étonnante, combien doux est le son qui a sauvé un misérable comme moi. Autrefois j'étais perdu, mais maintenant je suis retrouvé. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. » John Newton a expérimenté sur le plan spirituel ce que l'aveugle Bartimée a expérimenté sur le plan physique, une guérison de cécité. Tous les deux ont été arrachés à leur misère et ont connu une vie entièrement nouvelle. C'est exactement ce qui peut vous arriver aujourd'hui, amis auditeurs. Notre récit débute avec le Seigneur Jésus et ses disciples qui arrivent à Jéricho. Cette ville a joué un rôle important dans l'histoire du peuple d'Israël. En effet, Jéricho fut la première ville que les Israélites ont conquise quand ils ont pris possession du pays promis. Mais Jéricho est plus qu'une ville ordinaire comme il y en a des milliers d'autres. Cette ville transmet un message spirituel. C'est sa situation géographique qui doit retenir notre attention, car Jéricho se trouvait presque à 240 mètres au-dessous de la Méditerranée, près de la mer Morte. La mer Morte parle bien sûr de mort, et de ce que la Bible appelle « séjour des morts », là où vont les esprits des pécheurs impénitents après leur mort. Jéricho est donc par excellence l'image du monde, ce monde qui est perdu à cause de ses péchés, qui se trouve sous le jugement de Dieu, et au sujet duquel l'apôtre Jean a déclaré « Nous savons que nous sommes de Dieu » et que le monde entier est sous la puissance du malin. L'apôtre Jean nous fait donc comprendre qu'il n'existe en réalité que deux catégories de personnes, en l'occurrence ceux qui sont de Dieu, parce qu'ils sont nés de Dieu, s'étant repentis de leurs péchés et ayant accepté Jésus-Christ et son pardon. D'autre part, nous avons toutes les autres personnes qui ont peut-être une religion, mais qui se trouvent toujours sous la puissance du malin. C'est dans ce Jéricho que Jésus s'est rendu. En effet, notre Seigneur est venu dans ce monde perdu, ce monde dominé par le péché et par Satan. Il y est venu pour y apporter son pardon, sa délivrance, son salut et le don de la vie éternelle. C'est dans cette ville de Jéricho que Jésus a déclaré « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus ». Il est intéressant de noter que l'évangéliste Marc passe complètement sous silence ce que Jésus a fait dans Jéricho pendant sa visite à cette ville. Il parle uniquement de son arrivée pour mentionner aussitôt son départ. Mais le confrère de Marc, Le docteur Luc relate dans son évangile un incident important qui s'est déroulé à Jéricho lors du passage du Seigneur Jésus. Il s'agit de la conversion de Zachée, un préposé aux impôts. Zachée était un homme riche, mais dissatisfait et désillusionné par la vie. Son argent et son statut social ne lui avaient pas apporté la satisfaction souhaitée et espérée, pour la simple raison que ni les richesses, ni les possessions matérielles ne pourront jamais remplir le vide du cœur humain. Ce vide existe en nous aussi longtemps que nous sommes séparés avec notre Dieu et que nous n'avons pas une véritable relation personnelle avec lui. Saint Augustin, ce grand théologien et père de l'Église du IVe siècle, avait parfaitement raison quand il a dit « Ô Dieu, tu nous as créés pour toi-même, et notre cœur reste sans repos jusqu'à ce qu'il ait trouvé son repos en toi. » Quand Zachée a eu sa rencontre avec Jésus-Christ, tout son univers a basculé, mais dans le bon sens. Le Seigneur l'a immédiatement libéré de sa passion, en l'occurrence l'argent et l'amour de l'argent, et il a fait de lui un homme comblé. Et Jésus a pu déclarer à son sujet, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. » Chers amis, le salut est-il entré dans votre maison, votre vie? Êtes-vous un homme ou une femme comblée? À présent, le Seigneur Jésus sort de Jéricho. L'évangéliste Marc soulignait qu'il était accompagné de deux catégories de personnes, des disciples et d'une assez grande foule. Marc fait donc une distinction nette entre les disciples d'une part et la foule d'autre part. Où donc la différence? Voyez-vous, un disciple est un apprenti fidèle, quelqu'un qui s'attache à son maître pour être enseigné par lui, pour apprendre de lui, pour le suivre et être à sa disposition. La foule, par contre, consistait surtout d'hommes et de femmes curieux et affamés du spectaculaire. Il y avait parmi elles ce que j'aimerais appeler des chercheurs de bénédiction. Ils étaient à la recherche d'une grâce quelconque, telle qu'une guérison ou une délivrance d'oppression démoniaque. De quelle catégorie faites-vous partie? Vous considérez-vous comme un authentique disciple du Seigneur Jésus? Ou bien êtes-vous juste en quête d'une bénédiction quelconque? Il est absolument vrai que notre Père Céleste aime nous combler de ses bienfaits et de ses grâces, et qu'il nous invite à nous adresser à lui. Mais il ne voudrait pas juste être un distributeur de bénédictions, du genre de distributeur de billets de banque. Notre Dieu cherche d'authentiques disciples, et il souhaite que vous en deveniez un, monsieur et madame. À présent, l'évangéliste Marc introduit le personnage clé de notre récit. Il s'agit d'un certain Bartimée, fils de Timée. La Bible dit plusieurs choses intéressantes le concernant. Premièrement, il y a son nom qui doit retenir notre attention. Jésus avait opéré des centaines, voire des milliers de guérisons, mais nous connaissons le nom de très peu de personnes qu'il a guéries. Ça vaut donc la peine de s'arrêter sur la signification du nom de notre miraculeux. Marc l'appelle « fils de Timée, Bartimée ». Bartimée signifie « fils de Timée ». C'est le nom « Timée » qui m'intrigue, car on lui donne deux significations qui sont diamétralement opposées l'une de l'autre. D'après une définition, « Timée » signifie « hautement estimé ». Toutefois, si ce nom vient de l'araméen, la langue que les Juifs parlaient du temps de Jésus, « Timée » signifie « impur, sauvage, souillé ». Comparez ces deux significations. Mettez-les côte à côte. D'un côté, il est question de quelqu'un qui est hautement estimé. D'autre part, on parle de quelqu'un qui est impur, sauvage, souillé. Je vois dans ces deux significations un résumé de l'histoire de l'humanité. Le premier homme, Adam, était certainement hautement estimé. Il était le chef-d'œuvre de la création, la couronne de tout ce que Dieu avait créé. Adam avait été créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Oui, il était le porteur de l'image de Dieu. Dans le récit de la création, dans Genèse chapitre 1er, il est écrit à 5 reprises, « Dieu vit que c'était bon ». Mais après avoir créé l'homme et la femme, il est écrit « Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela a été très bon ». Pourtant, l'homme a chuté. Par sa désobéissance, il s'est révolté contre Dieu, et par son péché, il est devenu une créature impure, sauvage, souillée. Ceci est notre portrait peu flatteur, car nous sommes tous descendants d'Adam, des Bar-Adam, des fils et des filles d'Adam. Nous avons hérité de sa nature déchue, pécheresse, et nous sommes tous devenus des participants des conséquences de sa chute. En effet, la Bible déclare, c'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Une deuxième information qu'on fournit sur Bartimée, c'est qu'il était un mendiant aveugle. Il s'agit ici de deux phénomènes négatifs, la cécité et la mendicité. C'est terrible quand on est plongé dans une nuit perpétuelle, dans une obscurité permanente. C'est affreux quand il faut chercher son chemin en tâtonnant. Toutefois, la cécité de Bartimée me rappelle une cécité qui est encore beaucoup plus terrible et surtout beaucoup plus néfaste. Je parle de la cécité spirituelle. En effet, la Bible nous fait comprendre qu'une majorité d'hommes et de femmes sont spirituellement aveugles. Ainsi, l'apôtre Paul parle des incrédules, dont le Dieu de ce siècle, en l'occurrence Satan, a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Sachez qu'une des stratégies principales de Satan, c'est de nous aveugler, afin que nous ne reconnaissions ni notre état de perdition, ni notre besoin d'un sauveur, et que nous soyons complètement ignorants du plan de salut de Dieu. Après avoir sauvé Saul de Tarse, le persécuteur de l'Église, Dieu lui a confié sa mission de vie, qu'il a définie de la façon suivante. « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Je prétends qu'une majorité de Martiniquais sont spirituellement aveugles, et ceci malgré leur religion. Satan les a aveuglés. C'est pourquoi on peut aller à la messe le samedi soir ou le dimanche matin, et courir chez le quimboiseur ou le voyant le lendemain, et tromper son épouse ou son époux. Oui, on peut être religieux et aveugle. C'est la triste réalité. Sachez que les gens les plus aveugles sur le plan spirituel du temps de Jésus étaient le clergé, les scribes, les pharisiens et les sadducéens. Notre Seigneur n'a pas hésité à les appeler conducteurs aveugles et pharisiens aveugles. Il est donc tout à fait possible d'avoir une religion et de la pratiquer de manière assidue, tout en étant complètement aveugle pour les réalités de la parole de Dieu. Amis auditeurs, êtes-vous déjà guéri de votre cécité spirituelle, ou bien avez-vous besoin que le Seigneur vous en délivre? Il peut le faire en ce moment même. Une prochaine fois, nous verrons la suite du récit de Bartimée. J'aimerais juste prendre un instant pour prier avant de clore ce programme. Seigneur, je te remercie de ce que tu es la lumière du monde qui éclaire tout homme qui vient à toi. Toi seul, tu peux nous guérir de notre cécité spirituelle. Ouvre les yeux de tous ceux qui ont entendu ce message. Illumine les yeux de leur cœur et inonde-les de ta lumière et de ta vérité, cette vérité qui nous a franchis. Sois-en béni, précieux Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite toute la grâce et la force du Seigneur pour les jours à venir. À la semaine prochaine. Même jour, même heure, même longueur d'onde.